France Musique. Musicopolis. Au violon avec Georges Enesco.
Tout chez moi nourrissait ma passion musicale, tout y concourait, tout m'y précipitait. Non vraiment, je crois que je puis dire qu'il n'y avait qu'une seule vérité manifeste pour moi, et que s'il y a une décision à laquelle je ne me suis pas trompé, c'est celle que j'ai prise chaque jour de ma vie en persévérant de toutes mes forces dans la voie que mon père m'avait désignée.
C'est Georges Enesco qui se félicite ainsi d'avoir persévéré chaque jour de sa vie dans la voie de la musique. Enesco, mort en 1955, qu'on connaît aujourd'hui comme compositeur, mais qui de son vivant a été très connu aussi comme violoniste. Le violon a été son instrument depuis tout petit, mais il a vécu avec lui une relation compliquée, que Musicopolis vous raconte aujourd'hui. Georges Enesco est né en Roumanie, dans un petit village perdu, dit-il, de Moldavie, en 1881. Il ne se considère pas comme un enfant prodige, mais il affirme qu'il n'y a jamais eu chez lui de frontière entre la vie et la musique. Il a toujours tout fait en musique, vivre, respirer, penser. Petit, il entend des musiciens populaires roumains et des orchestres tziganes. Il tend un fil à coudre sur un morceau de bois pour se faire un violon. Il imite le cymbalum avec des baguettes. Il siffle pour faire le son de la flûte. Dans un entretien avec Bernard Gavotti, enregistré chez lui en 1952, Georges Enesco raconte ses débuts au violon.
Comme j'étais un écolier appliqué qui allait droit son chemin, mes parents, pour me récompenser, me firent cadeau d'un petit violon à trois cordes.
Je vois d'ici le petit Georges Enesco sautant de joie.
Moi aussi, je l'aperçois, le petit Georges Enesco. Il ne saute pas de joie, il jette son violon au feu. Voilà la différence.
Au feu? Mais pourquoi ça?
Parce que je voulais un violon véritable avec quatre cordes et non pas un jouet. J'avais déjà très mauvais caractère et surtout horreur qu'on me traita en petit enfant.
Thank you.
Et vous l'avez eu finalement, votre violon ?
Bien sûr ! Et je me suis mis à travailler tout seul avec obstination. Un beau jour, devant mon père, j'essayais avec un seul doigt sur la corde de Ré, une valse populaire, la célèbre valse d'Ivanovitch sur les flots du Danube.
La réaction paternelle.
Mon père en fut tout ému. Il me dit, tu seras musicien.
Vous voilà donc voué dès ce jour au violon.
Mais oui, hélas.
Pour commencer, l'apprentissage du petit Enesco se fait à la maison. Il s'amuse tout seul avec son violon. À 5 ans, on l'amène à un bon professeur de la grande ville voisine. Mais le petit garçon refuse de jouer tant que le professeur n'a pas montré lui-même ce qu'il savait faire. Ensuite, très vite, un problème se pose.
Je jouais d'instinct et d'oreille, enfin de mémoire. Naturellement, ça ne pouvait pas aller très loin comme ça. Un jour, mon père me dit, si tu veux faire sérieusement de la musique, il faut que tu apprennes la notation. Moi, je ne voulais pas. Mais papa, la musique, ça se joue, ça ne se lit pas. Mon père prend sa voix des grands jours. Eh bien, si tu ne veux pas apprendre la musique, tu seras porché. Alors, si c'est comme ça, papa, j'aime encore mieux apprendre la musique. Et voilà comment, là, mon cher ami, il y a eu sur Terre un musicien de plus et un porché de moins. J'ai commencé à composer à partir du moment où j'ai pu disposer d'un piano. Bon, ce n'était ni un Gaveau ni un Steinway. Un très vieux piano, très modeste, mais enfin un piano. Je troquais l'instrument monodique qu'est le violon contre l'instrument polyphonique qu'est un piano. Quand on a pu faire autre chose que de jouer des mélodies, sans aucun accompagnement. Si vous saviez ce que c'est beau d'enchaîner des accords. Un verre d'eau fraîche, quand on a très soif, ne peut pas faire plus de plaisir.
Très tôt donc, Enesco découvre ce qui va se confirmer de plus en plus. D'une part, sa véritable vocation musicale n'est pas le violon, mais la composition. Et d'autre part, le violon lui paraît limité, puisqu'il est fait essentiellement pour jouer une seule note à la fois. Thank you. Voilà donc le petit Enesco embarqué dans l'apprentissage du violon, et même attaché au violon, un instrument qu'il ressent physiquement et moralement comme trop petit pour lui. Sans compter que la littérature purement violonistique, en dehors de la musique de chambre, est très réduite. Mais alors, pourquoi continuer le violon, peut-on se demander ? Eh bien, au moins, l'instrument lui apportera l'indépendance. Pour pouvoir assurer sa subsistance, Enesco préfère encore se produire en concert plutôt que de devoir écrire de la musique alimentaire. Et puis, le violon est le premier instrument qu'il a entendu, tout petit en Roumanie. Il était normal qu'il veuille essayer d'en faire quelque chose. Mais son association avec le violon aura été, selon ses mots, non pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison, ce qui n'empêche pas les bons moments.
Ce qui m'a fait parfois aimer le violon, ce n'est pas le violon lui-même, comprenez-moi. Ce sont les exercices de Berio. Ce sont des exercices à deux violons, souvent écrits en double note. Par conséquent, on entendait quatre voix. Là, j'étais en présence de l'harmonie, et si vous saviez comme j'en jouissais. Alors je me suis fait une raison. J'ai compris qu'il me fallait apprendre à fond à jouer d'un instrument. J'ai travaillé mon violon à fond. Si vous saviez comme j'ai été obéissant, studieux, pas toujours très convaincu. Parfois, j'avais des crises de rage. Quand la veille, j'avais joué dans un ensemble ou quand je m'avais dirigé moi-même. Alors je prenais ce violon comme un chien qu'on fouette ou comme un forçat qui tire son boulet. Et puis j'en voulais à ce tout petit instrument de manger une telle quantité de mes forces vives et de mon temps pour, en définitive, un résultat aussi mince.
Dans la relation compliquée que Georges Enesco entretient avec le violon, outre le fait que l'instrument joue des mélodies plutôt que des harmonies, le hic principal se trouve dans le répertoire. Si Enesco aime profondément la musique de chambre à laquelle le violon participe, en revanche, le répertoire purement violonistique, le répertoire d'études, lui inspire une sorte de détestation. Il dit même « on ne peut pas aimer la musique et cette musique ». Enesco a étudié le violon d'abord à Vienne, avec Joseph Helmesberger, dont le père avait connu Beethoven, et ensuite à Paris, avec Martin-Pierre Marsic. Ce sont probablement les longues heures passées à jouer les exercices de Rod, Viotti ou Kreutzer qui ont creusé la sorte de fossé que le jeune Enesco sent de plus en plus entre la musique et le répertoire des apprentis violonistes. D'autant plus qu'à 15 ans, juste avant de passer le concours pour le prix de violon au conservatoire, il composait son poème roumain qui était joué séance tenante par l'orchestre Colonne.
Imaginez que j'avais fait jouer avec quelque succès mon poème roumain chez Colonne. J'étais, paraît-il, un esprit subversif, un sujet dangereux, peut-être, n'est-ce pas ? On m'avait à l'œil. Je concours avec le 29e concerto de Viotti. Moi qui avais joué en public à Vienne, le premier mouvement du concerto de Mendelssohn avec orchestre à 10 ans. On s'enthousiasme sur un texte aussi ennuyeux que le Viotti. On me donne tout de même un second prix, histoire de marquer le coup du poème roumain sans me désespérer tout à fait. C'était très bien dosé. Par malheur, je m'énerve. Je me convainc que je perds mon temps, que ma seule ambition est de composer. Je vais demander conseil à Saint-Saëns qui me dit de sa voix mordante « mais non, n'abandonnez pas !» Ça serait stupide. Persévérez, vous en verrez bien d'autres dans la vie.
Et vous suivez le conseil de Saint-Saëns ?
Oh oui, comment donc ? Sans aucun enthousiasme, cependant. Remarquez bien qu'au fond, Saint-Saëns avait raison, puisque l'année suivante, c'est-à-dire en 1899, on me donne un beau premier prix à l'unanimité avec, justement, l'allegro du concerto en si mineur de Saint-Saëns, que je suis incapable de jouer aujourd'hui.
Ça, j'en doute un tout petit peu, que vous en soyez incapable.
Vous verrez.
Réellement, Georges Enesco, c'est la création, la composition. Mais il ne laisse publier que les œuvres qui lui paraissent vraiment dignes d'être présentées au public. Et donc, puisqu'il faut bien faire bouillir la marmite, il doit se livrer en même temps à l'exercice du concert, des tournées et des enregistrements comme violoniste ou comme chef d'orchestre. Il y trouve bien sûr quelques joies lorsqu'il joue les œuvres de Bach pour violon seul, ou lorsqu'il joue en musique de chambre, en quatuor, ou en sonate avec des partenaires extraordinaires comme Alfred Cortot. Mais comme virtuose, c'est une autre affaire.
Je puis dire que je n'ai jamais eu de vraie joie comme virtuose, comme violoniste. D'abord, j'ai eu, comme chacun, des frayeurs, des accidents aussi. Un jour, après avoir joué le concerto de Beethoven, j'attaque la symphonie espagnole de Lalo. Ça me va pas mal au début, mais à un certain moment, je me perds dans mon propre rêve. J'accélère le tempo du final et le morceau, naturellement vif, tourne à la corrida. Je me sens entraîné malgré moi dans une course à l'abîme. C'est la catastrophe imminente. Je vois venir le moment où mes forces me trahissent. À l'instant, je songe à lâcher mon violon. Au dernier moment, je reprends courage, je tiens bon. Et je parviens épuisé, haletant à la dernière mesure, jurant, mais un peu tard, qu'on ne m'y reprendrait plus.
Pour Georges Enesco, la vie d'un virtuose s'apparente à celle d'un moine. Pour lui, les virtuoses sont des martyrs, des forçats, des saints qui se livrent à des travaux patients interminables, à des exercices fastidieux, qui s'entraînent chaque jour au saut périlleux jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement réussis, et tout cela pour une récompense très éphémère. Alors que le travail du créateur, s'il demande un immense courage, est celui qui donne la joie. Un extrait de la Rhapsodie roumaine, opus 11, numéro 1 de Georges Enesco, Chloé Hanslip au violon avec le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Leonard Sletkin. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches, Clément Diaz pour le site, Delphine Baudet pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.